They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的
母亲咱们家，正忙着忙着忙着忙
着忙着忙着
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Antoine Dulster, M. Xavier Martinet, Clément Salazar, Tiffaine de Roquigny, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en ondes ce matin par Anthony Thomasson. On poursuit notre série entamée lundi et consacrée à l'action humanitaire. Aujourd'hui, le mythe écorné du Chevalier Blanc.
Écoutez-moi, on est là pour s'occuper des orphelins. C'est important qu'ils aient moins de 5 ans.
Non mais qu'il n'y ait pas de confusion, on n'achète pas des enfants. On est une ONG les gars, je vous rappelle. Hein. Il y a 300 parents qui ont payé 2200 euros, ce qu'ils attendent en 3 semaines à Bordeaux.
Ça, ils ont toujours été hyper clairs avec les parents, ils savent très bien qu'il y a un risque.
Tu vas l'avoir cette pièce, tu vas pas l'avoir.
Mais oui, tout. Je vais l'avoir la pièce. C'est juste, t'es pas sur le tarmac d'Orly là.
Moi j'ai pas le choix, j'ai un mois devant moi là. Et je fais quoi moi si je peux pas les ramener ces gamins? Hein? Je fais quoi?
On arrête de se prendre la tête, on prend les 4x4, on va voir les chefs de village et on avance.
Dis-lui qu'on a pris beaucoup de risques pour venir ici. Il avait promis qu'il y aurait des enfants. Il n'y a pas d'enfants.
S'il nous les confie, c'est à 100%. Il faut bien qu'ils sachent qu'ils les reverront jamais de leur vie. Tu m'entends?
Non, non, ce qu'ils veulent, c'est créer un incident diplomatique. La France ne pourra pas renvoyer comme ça 300 gamins réfugiés de guerre.
Oui, depuis une semaine, le film Les Chevaliers Blancs est à l'affiche, une fiction qui s'inspire de l'affaire de l'Arche de Zoé qui avait défrayé la chronique, on s'en souvient, dans ce monde humanitaire en 2007. Pour rappel, il s'agissait d'une association accusée d'avoir tenté d'exfiltrer plus d'une centaine d'enfants pour les faire adopter en France, les autorités tchadiennes empêchant l'avion de décoller in extremis. Néocolonialisme, paternalisme ou simple faux pas d'une ONG jeune, peu expérimentée, c'est une des questions qui est posée par ce film justement. Quoi qu'il en soit, cette affaire et ce film met en avant cette figure de l'humanitaire pieniclée et pour certains, bande de zozo pour d'autres. On est bien loin de l'image héroïque et chevaleresque des French Doctors qui, à la fin des années 60, révoltés par la guerre au Biafra et par l'impuissance des organisations traditionnelles comme la Croix-Rouge, vont participer de l'émergence de cette nouvelle génération d'ONG prenant l'action d'urgence, dénonçant la bureaucratie et la diplomatie de l'aide. Alors que reste-t-il de cette figure aventureuse, cette aspiration spirituelle, morale qui accompagnait les premiers moments des French Doctors? Correspond-elle encore au profil de celles et ceux qui aujourd'hui composent le paysage d'un monde humanitaire qui s'est considérablement transformé? Voilà quelques-unes des questions qu'on va se poser ce matin et avec un autre invité qui est Jean-Christophe Ruffin. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, membre de l'Académie française, vous êtes diplomate, ancien ambassadeur notamment au Sénégal, ancien président d'Action contre la faim également. Donc cet humanitaire, vous l'avez vu de près, vous l'avez vu évoluer. Et puis vous êtes également l'auteur d'un ouvrage qui est paru l'année dernière, Checkpoint, dans lequel on retrouve une équipée humanitaire en direction de la Bosnie en 1995. On en parlera évidemment ce matin, entre autres, Jean-Christophe Ruffin. D'abord, peut-être une réaction sur le film dont on vient d'entendre un extrait, Les Chevaliers Blancs. Vous avez dit dans un entretien dans la presse que c'était un film juste. Vous redoutiez la caricature, la charge sans nuance contre le monde de l'humanitaire. Vous avez vu un film qui restitue plutôt bien la réalité.
Oui, oui, et pourtant ce n'est pas gagné parce que l'histoire de l'Arche de Zoé, il faut quand même le dire dès le départ, n'est pas révélateur de ce qu'est l'humanitaire en général. C'est très particulier l'Arche de Zoé. D'abord, ça concerne une question d'adoption, c'est vraiment un domaine spécifique. Ce sont des gens qui avaient commencé dans l'improvisation totale, un pompier d'Argenteuil qui avait commencé à l'occasion du tsunami, donc aller chercher des enfants orphelins dans les pays victimes du tsunami, qui ensuite a prolongé ça sans aucune espèce de compétence. Moi, j'ai trouvé que le film, si vous voulez, n'était pas une charge, comme son titre pouvait le laisser craindre, c'est pas une charge contre les grands docteurs blancs, les machins. D'ailleurs, ils sont pas docteurs, c'est pas le... Mais c'est presque un docu-fiction. C'est un film qui colle à ce qui s'est passé, qui le montre et qui le montre de façon honnête avec tous les dilemmes auxquels ils ont été confrontés.
En revanche, vous dites que le film révèle aussi très très bien les rapports entre l'Europe et l'Afrique, notamment à travers cette femme qui, à un moment, tend son enfant aux humanitaires pour qu'il échappe à la pauvreté. Et là, avec nos critères à nous, c'est-à-dire qu'on fait la différence entre ceux qui fuient la violence et la guerre et ceux qui fuiraient la pauvreté. Et là, tout vole en éclats, finalement, tout
oui,
se mélange. Tout
c'est ce qui dépasse justement le cas anecdotique et particulier de l'Arche de Zoé, c'est que c'est un problème qu'on retrouve, par exemple, dans les débats actuels sur les migrants. Comment distinguer le migrant politique, enfin celui qui fuit une menace spécifique.
Le réfugié, le migrant économique.
Le réfugié et puis le migrant économique. C'est, là, on le mesure très très bien avec des scènes très simples, comme en effet cette femme, parce que on leur dit non, mais nous, ce qu'on veut, c'est des orphelins et puis des enfants de moins de 5 ans et puis des enfants victimes de la guerre. Et en face, vous avez une femme qui a un enfant qui a plus de 5 ans, qui n'est pas victime de la guerre, mais qui pourtant a besoin de partir, veut partir, et veut partir parce que pour lui donner une chance, tout simplement. Voilà, toutes ces ambiguïtés, ces deux conceptions du monde, la conception, comme ça, occidentale, avec notre vision des choses, et puis la conception africaine, tout ça, c'est très, très bien rendu.
On a choisi ce matin de parler de la figure de l'humanitaire, et d'ailleurs, on en verra, puisque votre roman nous montre 5 personnages, et on comprend très bien, finalement, les dilemmes, les questions auxquelles ces gens sont confrontés. Mais il y a une chose qui me frappe, moi, personnellement, Jean-Christophe Ruffin. Vu d'ici, la figure de l'humanitaire, elle reste celle du héros qui se donne entièrement pour une cause, qui est prête à sauver la vie des autres en mettant la sienne de côté. Voilà, celle du French Doctor. Et pourtant, quand on regarde les choses de près, quand on regarde les choses du côté du terrain, du côté des bénéficiaires de l'aide, comme on dit, cette perception, elle est quand même moins reluisante. Paternalisme, néocolonialisme, intéressement, supériorité. Les humanitaires sont pas toujours les bienvenus. Regardons du côté d'Haïti, regardons la crise sanitaire Ebola dont on a parlé également cette semaine. Comment expliquer ce décalage persistant?
Parce que depuis la nuit des temps, parce qu'il y a toujours eu ces débats autour de l'humanitaire, il y a toujours des moments où on revient à quelque chose de créatif, de nouveau, de pur, de généreux, désintéressé, etc. Puis ensuite, il y a une dérive bureaucratique, les choses se sclérosent, s'ossifient, tombent dans la routine, tombent parfois dans des travers même plus graves, en fait, au fond d'utilisation politique et tout. Alors, on a connu une période de grands bouillonnements, quand dans les années 70, il y a eu la création de ces grandes ONG nouvelles, bon, qui à l'époque apportaient vraiment quelque chose et qui essayaient justement d'en finir avec, ou en tout cas de renouveler complètement l'action humanitaire qui s'était ossifiée, notamment avec l'affaire tragique de la Croix-Rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale, bon, qui a été plus qu'une ossification, là c'était carrément, on pourrait dire presque une trahison, en tout cas un aveuglement. Bon, ensuite la paralysie de tout le système des Nations Unies devant le Biafra, etc. Bon, face à ça, il y a eu la volonté, et je crois que ça a été traduit dans les faits, de renouveler complètement avec des ONG qui renouaient avec un esprit d'aventure. Bon, ces ONG, elles n'étaient pas très efficaces au début, il faut bien le voir, on faisait un peu n'importe quoi avec les bouts de ficelle, etc., mais il y avait un souffle formidable, qui reste là, mais qui quand même aujourd'hui est contrebalancé par le fait que ces ONG sont devenues elles-mêmes des institutions avec leur logique bureaucratique. Vous avez des gens qui vont au boulot tous les matins, qui ouvrent un ordinateur et qui tapent sur le tableau Excel, si vous voulez. Voilà, c'est ça aussi l'humanitaire.
Mais c'est ça aussi l'humanitaire. C'est vrai que c'est étrange. C'est-à-dire qu'on a cette figure du héros du French Doctor et en réalité, quand on regarde les choses, cette bureaucratisation, cette institutionnalisation de ce secteur-là fait que la figure de l'humanitaire, en réalité, elle n'est pas du tout celle qu'on pense. C'est des opérationnels, c'est des gens qui font du marketing, qui se soucient beaucoup de l'image des ONG, de leur ONG pour obtenir des fonds. C'est des gens qui montent des dossiers pour aller récupérer des fonds à droite, à gauche. C'est ça, en réalité, la figure de l'humanitaire.
Oui, c'est ça. Ça n'est pas non plus que ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, après, c'est, je crois, la responsabilité des dirigeants dans ces ONG de garder quand même la flamme, c'est-à-dire de faire en sorte que bien sûr tout ça, ça existe, bien sûr qu'il faut trouver des fonds, bien sûr qu'il faut avoir des liens avec les institutions, en particulier européennes, qui financent tout ça, mais il y a quand même une dimension associative. Normalement, ce sont des ONG, c'est-à-dire elles ont des adhérents, elles ont des assemblées générales, elles ont des conseils d'administration élus, normalement elles ont un président qui n'est qui ne devrait pas être payé. En tout cas, moi, je tiens beaucoup à ce distinguo, si vous voulez. Et cette partie associative, c'est elle qui devrait maintenir la flamme. Et elle n'arrive pas toujours à le faire. Parce que, bon, les choses ont dérivé parfois. Vous savez, ça a attiré pas mal de monde, les ONG, y compris des gens qui viennent, on ne sait pas trop ce qu'ils viennent faire là, mais voilà, il y a des universitaires, c'est très estimable, etc., qui viennent chercher un peu des connaissances. Vous avez des gens qui veulent faire de la politique ou je ne sais pas quoi, ou qui... Bon, donc tout ça, si vous voulez, moi je pense que c'est pas inéluctable, hein, mais c'est un effort tout le temps de maintenir la flamme, quoi.
Mais je voudrais juste avoir une idée de l'ampleur de la catastrophe, si on peut dire les choses comme ça. Qu'est-ce qui, en termes de moyens financiers et humains, est dépensé à gérer, voilà, les questions institutionnelles, etc., par rapport aux questions, disons, plus sociales, les questions tournées vers la solidarité?
Alors, ça dépend.
Évidemment, ça va dépendre des ONG.
Ça dépend des ONG, parce que vous en avez qui ont un accès au grand public, qui sont connus, qui ont un accès aux médias et qui peuvent donc lever des fonds directement auprès du public, hein, en faisant des appels. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui, en fait, s'appellent ONG, mais qui, en réalité, sont pratiquement des organisations paragouvernementales, ou en tout cas qui se financent essentiellement avec des fonds publics, des fonds européens la plupart du temps, mais qui, si vous voulez, du coup, sont tributaires des choix qui sont faits par l'Europe, par les grands décideurs au niveau européen. Si vous voulez, je pense pas qu'on puisse parler de catastrophe. Je pense que ces ONG sont utiles, qu'elles ont un mérite aussi qu'on oublie pas trop souvent, c'est qu'elles drainent ici une très très grande quantité d'énergie. Il y a des tas de jeunes qui écrivent tous les jours pour rejoindre ces ONG, pour s'y engager, pour y faire quelque chose. Alors, ils sont déçus, ils sont pas déçus, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, ça continue à être une représentation forte de l'engagement et à donner cette possibilité. Maintenant, bien sûr, c'est à nous, j'allais dire, ceux qui sont engagés là-dedans, de faire en sorte que ça soit pas complètement dévoyé. Moi, je ne crois personnellement que ça n'est pas fichu du tout, mais...
Vous dites qu'ils sont tributaires des États, et vous avez raison, on dépend bien sûr des bailleurs de fonds, mais les opérationnels, ceux qui portent cette solidarité, ils ne dépendent pas seulement de ces acteurs-là, ils dépendent aussi de leur siège, de leur hiérarchie. Mmh. L'une des conséquences, évidemment, de cette bureaucratisation, c'est qu'elle enlève une certaine liberté aux opérationnels. Très souvent, les acteurs de terrain doivent s'en référer à leur siège pour savoir si, oui ou non, ils peuvent agir. Et là, on se réfère pas au bailleur, on se réfère à son siège. Mmh. Alors que finalement, bien sûr qu'ils sont les mieux à même d'évaluer la situation, puisqu'ils sont sur le terrain. Mmh. Est-ce que vous pensez pas qu'il faut rendre du pouvoir de décision aux opérationnels par rapport à la partie bureaucratique, j'allais dire.
Oui, bien sûr. Mais tout ça est transformé, enfin, est complexifié par le fait qu'aujourd'hui, vous avez un problème majeur qui est celui de la sécurité. Mmh. Et que, par conséquent, comme on vit quand même dans une société où le principe de précaution règne, vous ne pouvez pas laisser des volontaires, si vous voulez, même s'ils sont volontaires, aller au casse-pipe ou prendre des initiatives qui vont les mettre en danger. Et ça, c'est un point très très important et qui change aussi la nature, parce que la nature du risque a beaucoup changé, si vous voulez. Moi, quand j'ai commencé en humanitaire, bon, il y avait des risques, mais enfin, ils étaient mesurables, ils étaient contrôlables, on pourrait dire. Aujourd'hui, vous avez des régions du monde, déjà, où on ne peut plus aller du tout, et puis vous en avez d'autres où, si vous y allez, il faut établir vraiment des procédures assez strictes, et c'est ça qui effectivement permet cette mainmise des sièges sur les volontaires, parce que finalement, s'il y a un incident ou même un drame, eh bien c'est le siège qui va être responsable, c'est le président qui va aller au tribunal, qui va devoir s'expliquer devant des familles. Il y a cette nécessité du contrôle. C'est pas inéluctable non plus, ça. Hein. Et on l'a vu, par exemple, je crois que vous avez fait une émission là-dessus, d'ailleurs, sur les zones de conflit. Les ONG sont aujourd'hui très frileuses dans les zones de conflit, en particulier en Syrie, mais vous avez des gens... je pense à un des fondateurs d'MSF, Dubosc, un chirurgien comme ça à la retraite, qui a pris sa petite valoche et puis qui y est allé. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui acceptent le risque et qui sont capables de maintenir la flamme, si je puis dire. Mais institutionnellement, on est obligé de prendre des précautions.
Alors, retour en arrière, 20 ans, plus de 20 ans en arrière.
Dès qu'on interroge des gens, ils vous expliquent qu'ils ont été mis dans des camions, qu'ils ont été mis dans des bus pour être foutus hors de leur village, hors de leur ferme, enfin. Oui, c'est le nettoyage.
Comme c'est la communauté internationale qui s'est engagée à protéger les zones de sécurité de l'ONU, et comme ils ne l'ont pas fait, alors oui, la communauté internationale est responsable du nettoyage ethnique.
Il faut bien entendu intensifier cette haine, mais également il faut penser, je crois, qu'il n'y a pas que la population de Sarajevo, et il y a également la population aux alentours de Sarajevo, et nous diversifions nos actions actuellement sur une dizaine de villes dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de Sarajevo.
Voilà, la Yougoslavie 1995, donc c'est le cadre que vous avez choisi pour votre roman Checkpoint, qui est paru aux éditions Gallimard, plus de 15 ans après Les Causes Perdues. Votre nouveau roman donc revient sur ce thème de l'humanitaire. On y croise plusieurs figures, justement, quatre hommes, Marc et Alex, la trentaine, des anciens militaires, anciens casques bleus, Lionel, qui est celui qui mène l'expédition, Vautier, le mécanicien, et puis une femme, Maude, la plus jeune, 21 ans, qui s'est engagée aussi après une histoire d'amour qui a mal fini, comme souvent les histoires d'amour. On est en 95, pendant la guerre de Yougoslavie, tous partent de Lyon en direction des Balkans pour acheminer justement de l'aide. Pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire à nouveau sur le monde de l'humanitaire? Pourquoi ça vous paraissait...
Il y a des éléments un peu circonstanciels. Je suis retourné à Sarajevo au moment de l'anniversaire des 20 ans de la guerre, là, qui a donné lieu à un certain nombre de manifestations sur place, notamment à l'initiative de Rémi Ourdan et d'autres. Donc je suis retourné là-bas et c'est vrai que toute cette période m'est revenue en mémoire de façon très très vivante. Bon, j'étais retourné depuis la guerre, mais là, ça m'a particulièrement frappé. Et surtout, ce qui m'a paru, alors là, c'était une raison plus de fond, ce qui m'a paru intéressant dans cette guerre, si vous voulez, c'est qu'elle mettait en scène, finalement, toutes les contradictions, déjà, qu'on ne voyait pas forcément à l'époque, mais qui, aujourd'hui, sont très visibles, très, très évidentes, notamment la contradiction fondamentale entre action humanitaire, c'est-à-dire faire le bien, ou faire la guerre. C'est-à-dire, faut-il apporter de l'aide, une conception classique de l'aide humanitaire, ou faut-il aller plus loin, c'est-à-dire prendre fait et cause pour ceux qui sont écrasés, ceux qui sont les victimes. Vous voyez, c'est tout ce contenu, tout ce débat était déjà là. On le voyait pas forcément. Et je trouvais que c'était intéressant de mettre en scène un drame comme celui-là dans le cadre d'une guerre terminée, si je parle. Enfin, terminée. En tout cas, dans cet épisode-là, parce que ça me permettait de s'affranchir comme ça des remous de l'actualité qui pouvaient perturber un peu les choses. Si j'avais pris la Syrie, par exemple, bon, là, j'aurais été tributaire de l'actualité, des événements, etc. Là, bon.
Et puis par ailleurs, vous le dites aussi, ce roman, il part d'une expérience vécue.
C'est ça. Alors en plus,
cette rencontre d'une famille qui s'est réfugiée dans un four.
C'est ça. Oui, ça c'est. Alors il y a, si vous voulez, ça aussi c'est la vertu de la remémoration. En fait, quand on va sur place et que les choses reviennent, remontent, et que effectivement, je me suis rendu compte, j'avais gardé beaucoup d'images de cette guerre où je suis vraiment allé beaucoup. Enfin, et donc tout ça a été enfoui, puis c'est revenu, c'est remonté, et c'est vrai que ça permet de donner une couleur, effectivement, au récit qu'on puisse directement dans le vécu.
Il y a une chose qui est très frappante dans votre ouvrage, Jean-Christophe Ruffin, dans votre roman, c'est que finalement, derrière les motivations altruistes des différents personnages qui sont réels, qui sont là, on a aussi, peut-être surtout, j'en sais rien, mais des motivations personnelles. C'est passionnant de voir que leurs convictions, leurs certitudes vont être totalement ébranlées aux uns et aux autres.
Oui, c'est ça qui est fondamental dans l'humanitaire. C'est pour ça que je vous disais que on peut pas se contenter d'un jugement global politique, je dirais, sur l'humanitaire. Il faut aussi voir que c'est un grand théâtre du drame humain, de la tragédie humaine. Pas seulement la tragédie des victimes qu'on va aller aider quelque part, mais la tragédie aussi de tous ceux qui partent et qui, d'une certaine façon, découvrent à la fois leur motivation profonde, leur frustration, leurs ambitions parfois, leurs contradictions. Ils vont découvrir tout ça dans l'action, si vous voulez, et c'est profondément romanesque. C'est pour ça que c'est un sujet, je trouve, pour un romancier, c'est extraordinairement riche, l'humanitaire, précisément parce que, à condition de bien vouloir s'éloigner des caricatures, si on regarde les choses comme elles se font, il y a une immense diversité de personnages. Moi, j'en ai pris 5, mais bon, qui sont un peu des archétypes, mais on aurait pu en prendre bien d'autres. Enfin, chacun vient avec ses motivations.
Page 54. Dès son entrée dans l'association, elle avait été frappée par le côté abstrait de l'humanitaire. On discutait géopolitique, situation des forces sur le terrain, enjeux stratégiques, mais finalement, les gens qu'il s'agissait d'aider restaient assez virtuels. Ce qu'on appelait les victimes, ou en parlant de l'aide, les bénéficiaires, étaient des êtres irréels sur lesquels nul ne semblait désireux de mettre un visage. Et le pire, c'était que jusque-là, cela lui convenait assez bien. Étonnant de voir que finalement, en l'occurrence, c'est Maud qui s'intéresse, qui s'interroge à un moment pendant le voyage à ces bénéficiaires, à ces victimes-là, mais avant cela, rien. C'est-à-dire l'identité, l'histoire des personnes que l'on, à qui on va porter secours, elle est quasiment secondaire.
Oui.
Dans un premier temps, en tout cas.
C'est ça, mais c'est vrai, si vous voulez, c'est encore plus vrai quand vous prenez de grandes institutions internationales ou autres qui vont vous parler de tout ça en termes très, très abstraits. Bon, dans les ONG, c'est un peu ça. Quand vous en parlez au niveau des sièges, ça reste beaucoup. En effet, voilà, on va aider des gens, on ne sait pas trop qui c'est. Par contre, pour les volontaires, ça, ces gens, ils vont les rencontrer, ils vont les voir. Ils vont être en contact avec eux. Et il y a souvent des choses très profondes qui se passent à ce moment-là. Quand on passe du virtuel, de la générosité abstraite, si vous voulez, je vais sauver le monde, tiens, voilà, je vais faire... Et puis tout d'un coup, non, on est en face de quelqu'un. On est en face de quelqu'un de concret, de vrai, qui est souvent contradictoire. Hein. On parlait tout à l'heure de l'Arche de Zoé. Bon, c'est une des richesses du film aussi. C'est qui montre que finalement, les gens qui vont aider ou sauver, ils sont pas aussi ni forcément honnêtes, ni forcément désintéressés. Vous voyez, tout ça, c'est ça le grand, comment dirais-je, ça reste une très grande utilité de l'humanitaire. C'est cette mise en contact de volontaires avec une forme de réalité. Mais évidemment, cette réalité, ils l'ont pas au siège, ils l'ont quand ils sont sur le terrain.
Il y a une chose, moi, qui m'a frappé dans ce roman et qui dit évidemment quelque chose sur la manière dont fonctionne cette action humanitaire, c'est que peu à peu, Maud, donc le personnage principal, va découvrir comment la mission a été décidée. C'est à la fois donc sur une proposition, disons, personnelle d'Alex, l'ancien casque bleu, qui a proposé de lancer cette opération d'assistance envers des Croates réfugiés dans une mine de charbon pour échapper à la mort, mais il y a aussi des motivations personnelles, on le comprendra plus tard. Et puis, c'est aussi la bureaucratie qui, finalement, dont on parlait tout à l'heure, ne se préoccupe se préoccupe d'abord et avant tout de trouver des bénéficiaires de l'aide. On est quasiment... C'est-à-dire le choix des missions, de cette mission en l'occurrence, c'est presque de l'ordre du hasard, presque de l'ordre du concours de circonstances, en tout cas du bricolage. Chose étonnante. Bah, alors qu'en même temps, on dit de l'aide humanitaire qu'elle est très conditionnée, qu'elle est politisée, qu'elle sert évidemment l'intérêt des États. Et ce qu'on découvre là, c'est que...
C'est un mélange des deux, c'est-à-dire que vous allez avoir quelque part, par exemple à Bruxelles, s'ils sont des fonds européens, par exemple, vous allez avoir un comité qui va vous dire, on va affecter tant de fonds pour telle crise. Bon, là, effectivement, il y a théoriquement une rationalité politique, diplomatique, je voudrais. Après, il y a des ONG qui peuvent émarger dans ces budgets, parce qu'on les connaît, parce qu'ils ont des accords cadres, etc. Donc ils viennent et puis ils disent, nous, voilà, on va prendre une partie de cet argent pour l'utiliser sur le terrain que vous voulez, puisque c'est là que vous voulez qu'on aille. D'accord. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Après, vous avez un cahier des charges. Alors, on va vous dire, par exemple, dans le cas précis, on va vous dire, vous n'allez pas à Sarajevo, il y a déjà trop d'ONG à Sarajevo. Alors, débrouillez-vous. Alors, comment ils font?
Soit ils renvoient... C'est la réalité, c'est ce qui s'est passé.
C'est tout à fait concret. Alors, soit ils renvoient une mission exploratoire pour trouver un autre endroit, soit ils ont quelqu'un qui connaît un petit peu et qui va leur dire, tiens, moi, je connais un tel endroit. Voilà. Alors, là, je caricature un petit peu, mais à peine. C'est-à-dire que, si vous voulez... en général, les choses passent par ce qu'on appelle ces missions exploratoires, qui permettent de trouver des lieux. Mais, si vous voulez, c'est tout le paradoxe de ces missions qui sont faites à partir, au fond, d'un choix politique très, très global, très lointain, qui est celui de l'Europe, l'Europe est le principal bailleur de fonds international, aujourd'hui. Premier bailleur dans le monde. Avec ECHO, qui va dire, on a tant de fonds pour telle crise. Voilà. Et puis après, vous débrouillez. Et c'est vrai que, l'improvisation, après, elle a lieu jusqu'au bout, parce que, évidemment, entre la décision prise dans les bureaux de Bruxelles et puis ce qui va se passer sur le terrain, il y a un monde, quoi. Il y a un monde et, il faut se débrouiller, quoi. Et puis c'est comme ça que ça se passe.
Puis ce qui est étonnant aussi dans votre livre, sans tout révéler, c'est qu'on peut aussi se retrouver dans un convoi dont on ne sait pas exactement le contenu. Et ce qui pose la question de savoir finalement, de quoi ont besoin les gens? C'est la question qui va être posée finalement à tous ces personnages. De quoi ont besoin les personnes que l'on va secourir? Est-ce que c'est des médicaments, des vêtements, de la nourriture? Ou est-ce que c'est, en l'occurrence, on ne va pas en dire trop, mais de l'explosif?
Des armes,
oui. Voilà.
Quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était au moment où sur la Syrie, si vous voulez, la crise syrienne, on se posait ce problème au niveau diplomatique. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, ça paraît très loin aujourd'hui, mais on disait, qu'est-ce qu'il faut faire avec la Syrie? Est-ce qu'il faut envoyer de l'aide humanitaire à ces gens qui subissent une répression? Ou est-ce qu'il faut les armer? Vous voyez, c'était... Alors, finalement, c'est un problème qui est récurrent. C'est un problème qui est réel, parce que si on se reporte en arrière... c'est des conceptions qui sont chacune défendables. Si on revient à la Deuxième Guerre mondiale, il est tout à fait ridicule de penser que face à la Shoah, par exemple, il aurait fallu faire de l'humanitaire dans les camps de concentration. Il était évident que c'était pas ça. Et que là, la seule solution, à ce moment-là, c'était de faire la guerre. Vous voyez ? Donc, ce problème, il se pose depuis longtemps. Il se pose même toujours. Simplement là, bon, je l'ai mis dans un huis clos avec deux camions, un peu à la salaire de la peur, si vous voulez, qui permet, au fond, de transformer ce débat abstrait en un choix pragmatique de personnages qui vont se trouver confrontés, même en choc, les uns avec les autres.
Et est-ce que vous avez l'impression que le cours de l'histoire nous emmène vers un monde où finalement l'interventionnisme militaire remplacerait progressivement l'interventionnisme humanitaire?
Non, je pense pas, mais simplement, je pense que les motivations humanitaires aujourd'hui peuvent se trouver... j'ai pas forcément dévoyé, mais en tout cas, ce qui me frappe, c'est que par exemple, dans les motivations des djihadistes qui partent rejoindre les rangs de l'État islamique, il y en a pas mal qui ont raconté que c'est pour des raisons humanitaires qu'ils se sont joints à eux. C'est-à-dire que c'est parce que ils étaient révoltés par le spectacle sur les chaînes d'information, etc., des massacres qui avaient lieu, je sais pas, dans les territoires palestiniens, etc., que, vous voyez, l'humanitaire les conduisait à faire la guerre. Et quelle guerre? La pire, c'est-à-dire celle la plus terrible en matière de violation des droits de l'homme. Donc, ce passage, si vous voulez, de l'émotion humanitaire à l'engagement militaire, il n'est pas virtuel. Et alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura plus d'humanitaire, d'humanitaire classique, je veux dire, pas du tout.
Mais ce que vous semblez dire, c'est que finalement, les victimes d'aujourd'hui qu'on croise... notamment, effectivement, dans le conflit syrien, c'est des victimes un peu particulières, en ce sens que on a envie, c'est vous qui le dites, de les aimer d'un amour particulier, celui qui incite à prendre les armes.
Oui, parce qu'il y a un certain nombre de situations dans lesquelles on se rend compte qu'on est dans une sorte de d'impasse, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de conditions, si vous voulez, pour que l'humanitaire classique soit possible. Il faut avoir accès aux victimes. Il faut pouvoir déployer vos programmes, etc., de façon, sinon libre, du moins quand même vérifiable, un peu fiable. Bon, si vous ne pouvez pas le faire du tout, si vous avez un écran entre les victimes et vous, qui est représenté par les bourreaux, qui exigent qu'on leur remette l'aide à eux et qui vont en faire usage qu'ils veulent, eh bien évidemment, il y a un moment où ça n'a plus de sens de faire de l'humanitaire classique. Et à ce moment-là, la seule solution qui reste, c'est effectivement d'intervenir de façon plus musclée, plus militaire.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde, toute cette semaine autour de l'action humanitaire et aujourd'hui sur la figure de l'humanitaire, le mythe écorné du Chevalier Blanc. On va retrouver un nouvel invité, Jean-Christophe Ruffin, c'est Pierre Micheletti qui est avec nous par téléphone. Bonjour Pierre Micheletti.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, ancien président de Médecins du Monde, vice-président d'Action contre la faim et puis auteur notamment de ce roman sur l'affaire de l'Arche de Zoé dont on parlait tout à l'heure avec Jean-Christophe Ruffin en début d'émission, Les Orphelins. Il y a un film évidemment qui est sorti sur cette affaire. Vous aviez écrit, vous, à l'époque, ce roman à partir de cet événement, sauf que l'avion devant emmener les 103 enfants vers l'Europe, qui a été arrêté par les autorités tchadiennes, vous, à l'époque, vous aviez choisi dans votre livre de le faire décoller et de voir les conséquences que ça aurait pu avoir sur les différents acteurs. Qu'est-ce qui vous intéressait en particulier dans cette hypothèse, Pierre Micheletti?
C'était à la fois de pointer quelque chose qui a été peu traité au fond dans cette affaire puisque l'avion a été arrêté, mais que serait-il advenu du personnel tchadien qui serait resté sur le tarmac de l'aéroport d'Adéché et qui serait potentiellement devenu la cible du ressentiment et de la vindicte des populations à qui on aurait kidnappé entre guillemets les enfants. Donc c'était un des aspects, mais je me suis aussi servi du roman pour revenir sur une dimension de la complexité de cette affaire qui ne se résume pas au dérapage d'une petite ONG française, parce que je considère qu'il faut aussi la remettre dans le contexte politique de la France de l'époque. Les candidats à la présidentielle s'étaient engagés à intervenir au Darfour. On était en plein projet de développement d'une force européenne, le FOR, à la frontière est du Tchad. Et donc, dans la mission, mission réussie de la part de l'Arche de Zoé, aurait aussi entériné l'idée que la situation au Darfour restait dramatique et aurait facilité le déploiement de la force européenne, ce qui faisait le jeu de la politique étrangère française par rapport au président tchadien de l'époque. Donc, on a beaucoup de complexité au-delà de l'anecdote du dérapage de cette petite ONG.
Pierre Micheletti, on s'intéresse ce matin à la figure de l'humanitaire. On évoquait tout à l'heure avec Jean-Christophe Ruffin peut-être ce décalage entre la représentation que nous faisons ici, et puis celle qui est construite par les populations bénéficiaires de cette aide. Vous avez parcouru aussi de nombreux pays, donc vous avez eu l'occasion d'observer, de mesurer cette différence de perception. Vous avez ressenti ce décalage entre l'image que vous aviez ici et celle que vous projetiez dans vos différents terrains, avec peut-être une différence entre les situations d'urgence absolue, où là, finalement, globalement, l'humanitaire est bien reçu, très bien reçu, parce que très attendu, et puis les opérations sur le plus long terme, disons, Pierre Micheletti.
Oui, alors, en toile de fond de la discussion de ce matin, il y a aussi cette représentation de l'humanitaire français, de cette figure un peu mythologique, avec quelques grands noms dont certains ont déjà été évoqués, mais qui est quand même un humanitaire qui a émergé dans les années 70, après la Deuxième Guerre mondiale, et qui se trouve aujourd'hui confronté sur ses terrains de déploiement, à de nouvelles configurations qui font que l'image de l'européen, l'image flamboyante de l'occidental n'est plus du tout celle qui prévalait dans les années 60 et 70 avec la montée en puissance des Médecins sans frontières, des Médecins du monde, Action contre la faim, etc. Donc il y a un problème de perception qui évolue sur le terrain parce que les contextes et la façon dont on nous perçoit en tant qu'intervenant extérieur a varié. Les équilibres internationaux ne sont plus du tout ceux qui prévalaient dans les années 60, et que du coup, l'humanitaire d'urgence, sous condition, reste des bienvenus, mais que dès lors que cet humanitaire entend jouer sur des problématiques sociétales, la contraception, l'accès aux soins des femmes dans certains contextes culturels, la défense des homosexuels, là, il y a une prétention de l'humanitaire à jouer un rôle d'acteur social pour laquelle un certain nombre d'observateurs des pays concernés le considèrent illégitime.
D'accord, donc il y a plusieurs choses en fait qui posent problème, si je puis dire. C'est globalement l'intrusion d'un État d'un pays dans les affaires d'un autre, et puis c'est aussi qu'on considère que le personnel humanitaire, en tout cas aux yeux des autochtones, n'est pas légitime pour traiter des problèmes sociaux, des problèmes sociétaux. Pierre Micheletti. Et puis, peut-être juste restez près de votre micro pour qu'on vous entende le mieux possible, Pierre Micheletti, je vous en prie.
D'accord, donc oui, enfin, il est illégitime, ou il pourrait être illégitime, cet humanitaire international, dès lors qu'il prétend travailler sur des problématiques sociétales sensibles, s'il le fait sans alliance avec des acteurs sociaux, des leaders associatifs, des pays dans lesquels il intervient, à ce moment-là, je n'ose pas parler d'humanitaire à ce moment-là, je préfère parler de solidarité internationale, sont un peu comme des martiens qui débarquent dans une société et qui prétendent réformer la sensibilité de la population ougandaise ou tanzanienne sur la question de l'homosexualité ou autre. Donc, dans cette forme de solidarité-là, les alliances avec les acteurs sociaux des pays sont absolument incontournables pour acquérir une légitimité qu'on n'a pas spontanément en tant qu'étranger.
D'où l'importance, Jean-Christophe Ruffin, de donner peut-être plus de place aux ONG du Sud et d'améliorer la coordination entre les ONG occidentales et les ONG du Sud qui de plus en plus font un travail de terrain de plus en plus remarqué, remarquable.
Oui, mais ça c'est justement la grande nouveauté, si vous voulez, par rapport à ces années 70 où les choses étaient relativement claires, c'est-à-dire où il y avait ici, par exemple, un surcroît démographique de médecins. Il y avait beaucoup de médecins qui avaient été formés dans cette génération du baby boom. Il y avait au contraire un déficit criant de cadres et de gens formés dans les pays du Sud. Donc tout ça était relativement simple. Les réfugiés étaient au Sud, les donateurs étaient au Nord. Aujourd'hui, tout ça, ça se brouille. Il y a un déficit de médecins en Europe et vous avez des médecins des pays du Sud qui viennent s'installer ici, qui suffit d'aller dans les campagnes un peu partout. Vous avez des réfugiés qui ne sont plus dans des camps, dans des pays lointains, mais qui vont être en Grèce ou même à Calais. Vous avez des médecins originaires de pays du Sud qui vont se retrouver dans des missions d'ONG du Nord qui vont les renvoyer dans des pays du Sud. Hein. Vous pouvez très bien voir un médecin congolais s'occupant d'Ebola pour Médecins Sans Frontières en Sierra Leone, par exemple. Bon, voilà. C'est-à-dire que tout ça est un grand mouvement et évidemment avec une en toile de fond. Un fait marquant, évident, et dont il faut absolument tenir compte, c'est qu'il y a maintenant, dans le Sud, dans les pays africains en particulier, ou au Moyen-Orient ou autre, des gens formés, des gens de qualité, qui sont organisés ou pas, parce que certains font un très gros boulot d'ailleurs, des ONG locales, etc., au Bangladesh, un peu partout, et que on ne peut pas faire autrement, et on doit évidemment, non seulement en termes d'efficacité, mais même parce que c'est l'ordre des choses, travailler avec eux et se mettre d'une certaine façon à les soutenir au lieu de vouloir se substituer à eux. C'est ça le grand, grand changement.
Il y a une figure de l'humanitaire en France qui est évidemment extrêmement marquante, c'est celle de Bernard Kouchner.
Absolument envoyer des médecins, du matériel. Ils n'ont pas de drap pour être enterrés. Ils n'ont pas de nourriture pour survivre. Ils n'ont pas de médicaments pour être traités. Et pourtant, il y a des entreprises et des associations formidables qui travaillent ici au péril de leur vie. Mais ils ont été complètement oubliés pendant longtemps. Et voilà, et il faut le faire. Ou alors faut plus se regarder en face. Ou alors faut pas la peine d'être si riche et de partir en vacances, vous comprenez? Alors, ce que je vous dise, moi, les gens sont en vacances en France et puis il y a les Jeux Olympiques. Voilà ce que je vous dis. Et c'est un drôle de monde.
Voilà, Bernard Kouchner, Somalie, août 1992. Pierre Micheletti, on vous a parfois présenté comme l'anti-Kouchner. Preuve qu'en France, Bernard Kouchner, un cofondateur de MSF avant d'être ministre, demeure une figure incontournable par laquelle se structure finalement ce paysage humanitaire français. Que vous inspire cette comparaison? En quoi est-ce que vous vous sentez finalement différent de Bernard Kouchner et de l'action qu'il porte?
Alors, je ne suis pas l'anti-Kouchner, j'ai pris des positions qui s'éloignaient de certaines que lui-même avait prises, du fait qu'il a un parcours, donc il est typiquement cette figure de l'humanitaire français du mouvement dit des Sans Frontières. Il était jeune médecin au Biafra, recruté par la Croix-Rouge, scandalisé par le mutisme à l'époque de l'organisation qu'il employait. Lui-même avait été concerné dans sa famille par la Shoah, donc très sensibilisé sur la question du silence de la Croix-Rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'un des présidents de la Croix-Rouge allait ensuite appeler la faillite morale de la Croix-Rouge internationale. Donc il avait cette sensibilité. Donc de ce point de vue-là, il incarne cette génération. Là où j'étais plus en décalage, c'est dès lors que, étant le fruit de cette humanitaire en rupture avec la politique étrangère et un humanitaire d'interpellation, ayant eu un parcours qui l'a amené lui-même à avoir des fonctions politiques au sein du gouvernement, il a infléchi ses positions pour faire évoluer, enfin en tous les cas, essayer de faire évoluer cet humanitaire non gouvernemental, suspicieux, voire contestataire par rapport à la politique étrangère, en faisant plus, en essayant d'en faire plus résolument un outil de politique étrangère.
Là où je vous comprends pas, Pierre Micheletti, pardon, excusez-moi, c'est que ce que vous visiblement reprochez à Bernard Kouchner, et on peut l'entendre, c'est une forme de politisation de l'action humanitaire. Or, quand vous aviez pris, vous, la tête de Médecins du Monde, il y avait eu de très fortes tensions à l'intérieur de cette ONG, notamment avec son président de l'époque, Jacques Imamou, avec qui vous aviez eu des différends très forts autour de la question de Gaza, et c'est un moment où finalement vous aviez fait d'une certaine manière de la politique.
Oui, de la politique de citoyen. Dans les ONG, sont et les associations en général, et là je fais que paraphraser Tocqueville, sont des outils de contre-pouvoir. Donc ce sont de formidables laboratoires de la vie démocratique, de la confrontation des idées, de la confrontation politique, et il n'y a qu'à fréquenter les CA de Médecins Sans Frontières, d'Action contre la faim ou de Médecins du Monde pour s'en persuader. Mais on est là dans un jeu d'apprentissage de la vie démocratique où c'est pas non plus un monde de bisounours sur la façon de défendre ses idées. Ce que préconisait Kouchner est une autre forme d'engagement politique, de transformer les ONG en outils de politique étrangère, ce qui n'est pas a priori la culture de ce mouvement des Sans Frontières que vous décrivez depuis le début de l'émission.
J'entends la nuance. Jean-Christophe Ruffin, réaction sur cette question centrale qui est de la politisation ou non des ONG.
Oui, mais c'est pas la politisation. Moi, j'entends bien ce que dit Pierre. Ouais. C'est vraiment un parcours personnel, si vous voulez, qui est un peu choquant, parce qu'on a le droit de faire de la politique, et l'humanitaire est baigne dans la politique, et l'humanitaire français, justement, se caractérise par sa lucidité politique depuis toujours. Le parcours de Kouchner, c'est un parcours de responsabilité politique, avec des responsabilités lourdes, ministre des Affaires étrangères. Quand il était ministre de la Santé, c'était moins criant, mais ministre des Affaires étrangères. Moi, je l'ai vu de près, puisque j'ai été son ambassadeur. Je l'ai vu sur des questions africaines, si vous voulez. Et je l'ai vu avaler un certain nombre de couleuvres, je l'ai vu d'une certaine façon renier, en tout cas en apparence, je ne sais pas dans le fond de son cœur ce qu'il en était, mais enfin, en pratique, si vous voulez, il a mis son mouchoir par-dessus toutes ses convictions, et il est allé jusqu'au bout d'une forme de complaisance à l'égard des pires, vous voyez, de la France-Afrique telle que dans sa caricature, des choses comme ça, et qui l'ont beaucoup décrédibilisé. Je pense que il faut utiliser ce mot parce que Kouchner avait un crédit très fort qu'il a, je crois, perdu par ce... En faisant de la politique de cette manière. C'est parce que c'était pas Christiane Taubira. Il est pas parti sur des... Il a eu l'occasion de le faire. Il ne l'a jamais fait. Il est allé jusqu'au bout. Il a avalé toutes les couleuvres.
Merci beaucoup, en tout cas, Pierre Micheletti, d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, je rappellerai aussi votre dernier roman qui est paru il y a quelques jours, Les Poissons pleurent aussi, aux éditions Lucien Souni. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Les ONG françaises, les plus connues, celles dont on parle, MSF, Médecins du Monde, Action contre la faim, évidemment, elles se distinguent dans ce paysage humanitaire, d'abord de par leur mode de financement, de par aussi le fait qu'elles se veulent, d'une certaine manière, à politique, comme on l'entendait, même si, bien sûr, on fait toujours un peu de politique, mais aussi parce qu'elles sont non confessionnelles. Or, bien sûr, nombre d'acteurs de l'humanitaire mettent en avant cette confession, cette religion, s'appuient sur la religion pour déployer la mécanique solidaire. C'est le cas, par exemple, en Haïti, avec cette église missionnaire.
On a commencé il y a 11 ans, mon épouse et moi, avec une trentaine d'enfants, et on visite chaque semaine, maintenant, 2000, 2500 enfants dans les ravins où ils habitent. Et on prend soin d'eux, on enseigne la parole de Dieu, mardi la prière, mercredi la jeunesse. On veut que l'enfant, lorsqu'il est petit, le bien le former, enseigner Jésus, le former en Jésus, afin que la population puisse changer, que le pays ait un avenir. On a une vision pour 10 000 enfants dans notre quartier, pour ces enfants-là. On veut construire une école de métier, construire une école où est-ce que les filles vont apprendre à faire la couture, faire la cuisine. Et on veut avoir quelque chose pour les garçons, l'électricité, la plomberie, la maçonnerie et l'électronique. Et comment nous aider? Certainement par la prière et des équipes qui vont se lever pour intercéder pour nous. Et comment nous aider? Par les finances.
Voilà donc un exemple parmi tant d'autres, cette église pour les enfants à Haïti, l'église missionnaire de Louise et Michel Charbonneau. On va retrouver une troisième et dernière invitée, c'est Johanna Siméon. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, professeur en sciences politiques à l'Université Paris 1, une spécialiste de cet engagement humanitaire. En réalité, en France, on le disait, on a cette vision d'un monde humanitaire sans frontiériste, non confessionnel, laïque. Mais quand on regarde le reste du monde, finalement, on apparaît comme quasiment une exception. En réalité, la religion a une place très forte dans l'action humanitaire mondiale, Johanna Siméon.
Oui, alors, qu'ils se définissent d'ailleurs comme humanitaire ou avec d'autres mots, en voyant à la question de la charité, par exemple. Mais c'est vrai qu'à l'échelle mondiale, des poids lourds hein, de l'espace humanitaire international, des gens comme World Vision, c'est une ONG évangélique qui pèse plus d'un milliard de dollars par an. Bon, ben voilà, ils sont clairement identifiés comme des acteurs religieux et en même temps des acteurs qui bénéficieront de financements de USAID ou d'autres financements publics pour les faire de l'humanitaire.
Johanna Siméon, évidemment, vous avez, comme nous tous, été marqué par cette polémique ces derniers jours à propos de cette émission de télévision dans laquelle la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a refusé de réagir et de débattre avec le président d'une ONG d'obédience salafiste qui se donne pour mission de venir en aide aux populations musulmanes à travers le monde. Son président fondateur, Idriss Siamedi, était invité à s'exprimer à propos du sort de Moussa Ibn Yacoub, qui est un membre de Baraka City, en l'occurrence, c'est le nom de cette ONG, qui est emprisonné en ce moment au Bangladesh pour activité suspecte. Alors, dans cette affaire, on a évidemment été choqué par son refus de condamner clairement, explicitement, les exactions de Daesh, où son association intervient, entre autres. Mais on peut également être étonné du refus du dialogue de la ministre. C'est quand même un mauvais signe pour tous ces professeurs qui, régulièrement, sont quand même confrontés à des discours similaires, semblables, et à qui on explique à eux qu'ils doivent impérativement être ouverts au dialogue, à la discussion. Mais en tout cas, cette polémique, elle nous invite à nous pencher sur le rôle, le poids de ces ONG islamiques. Est-ce qu'on note, Johanna Siméon, dans le monde de l'humanitaire, une montée en puissance de ces ONG islamiques, et est-ce qu'il faudrait s'en inquiéter ?
Alors, on voit se développer effectivement le nombre d'ONG se référant à l'islam, mais je dirais un peu avec toutes les variations possibles. C'est-à-dire que si vous allez sur le site de Baraka City, vous voyez par exemple, c'est un bon indicateur, que c'est pas une association qui vous permet de déduire les dons que vous lui faites de vos impôts. Ça veut dire quoi ? Que c'est pas une association reconnue d'utilité publique, que clairement c'est pas une association qui va beaucoup fonctionner sur financement public. À l'inverse, vous allez sur le site du Secours islamique en France, là vous êtes dans le cadre d'une ONG qui a à la fois la référence professionnelle, mais d'une certaine façon comme le Secours catholique ou d'autres, où vous aurez des dons déductibles. Et ça veut dire que dans l'espace de l'humanitaire confessionnel musulman, bah, vous avez autant de variétés qu'entre je sais pas, la petite ONG évangélique, prédicatrice, un peu comme l'extrait que vous avez passé sur Haïti, et à l'inverse, des grands mastodontes qui, dès lors qu'ils acceptent des financements publics, en fait, peuvent pas non plus se permettre sur le terrain de faire du tri entre leurs victimes. Alors, ils choisiront un peu leur pays, évidemment.
Ouais.
Mais ils ne feront pas le tri avec les victimes.
Jean-Christophe Ruffin, une réaction sur ce point ?
Oui, déjà, des ONG musulmanes, on a pris l'habitude de traiter, ou de pas traiter, mais en tout cas de les avoir en face de nous, dans un autre contexte, au départ, qui était les pays où on intervient, des pays musulmans dans lesquels il y avait obligation, parfois, je pense au Soudan, par exemple, de non pas d'agir directement, mais d'agir par l'intermédiaire d'ONG locales, qui étaient en fait des ONG relais du pouvoir, et en particulier, effectivement, de sa dimension religieuse. Alors, la nouveauté, c'est que maintenant, ces ONG existent aussi ici, et qu'elles tombent finalement dans une problématique qu'on connaît très bien depuis des siècles, je dirais, pour l'aide confessionnelle catholique, enfin chrétienne, disons, c'est-à-dire la question de savoir s'il s'agit d'aider tous les hommes ou simplement ceux qui ont la même foi, et s'il s'agit de les aider simplement pour perpétuer une inégalité divine, finalement, de la création, ou au contraire pour acquérir les moyens de leur indépendance, de leur liberté, de leur émancipation. Alors, pour l'instant, on a l'impression que ces ONG islamiques, comme vous le disiez très justement, il y a toute la palette. Vraiment, ils n'ont pas vraiment entre les très militants et dont on voit qu'ils sont en fait les bras armés de gens qui ont d'autres agendas, comme on dit en anglais, et puis ceux qui, au contraire, collent au modèle finalement, au modèle chrétien, comme le Secours islamique de France, etc., qui effectivement sont en train d'entrer une une forme de norme d'une certaine façon.
Est-ce que l'humanitaire, Jean-Christophe Ruffin, c'est une nouvelle religion d'une certaine manière? Parce que l'humanitaire, y compris d'ailleurs l'humanitaire laïque, non confessionnel, il peut s'inscrire quasiment dans ce qu'on appelle la théologie de la libération, c'est-à-dire ce courant de pensée qui vient d'Amérique latine, qui vise à rendre espoir, qui vise à rendre la dignité aux pauvres, aux exclus, en les libérant de leurs terribles conditions de vie. D'ailleurs, il est intéressant de voir que la théologie de la libération, le terme théologie de la libération, il apparaît à peu près au même moment que les French Doctors, en 1968. Mais dans quelle mesure est-ce qu'on peut comparer les deux? Est-ce que si je vous dis que finalement l'humanitaire c'est une nouvelle religion, est-ce que ça vous choque?
Non, c'est-à-dire, on se rend compte aujourd'hui, alors qu'on pensait que nos valeurs étaient implicitement universelles, si vous voulez, hein, on se rend compte aujourd'hui qu'elles ne sont pas universelles, qu'elles sont portées par certains groupes et que nous sommes finalement les combattants d'une cause, en effet, qui est celle des droits de l'homme. Finalement, l'humanitaire, c'est les droits de l'homme en acte. Et les droits de l'homme, dans la conception que nous en avons, dans la conception qui se veut universaliste, kantienne, la conception issue de la Révolution française, l'humanitaire est une branche de ça. C'est-à-dire que tous nos présupposés, l'égalité homme-femme, la nécessité d'apporter l'éducation, de préférer la vie à la mort, la santé à la maladie, toutes ces choses-là qui nous paraissent intuitives et universelles, nous les portons. Nous ne sommes peut-être parfois très seuls pour les porter, mais en tout cas, dans cette matière-là, dans cette acception-là, si vous voulez, c'est, je n'ai pas une religion, en tout cas, c'est un combat.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into
Vous reconnaissez évidemment Johnny Cash. On l'a choisi parce que c'est l'une des références musicales qu'on retrouve dans votre livre. Je ne sais plus si c'est Alex ou Marc, lequel des deux, à un moment, dans le camion, dans ce convoi parti vers les Balkans, écoute Johnny Cash avec son Walkman. Parce qu'à l'époque, c'était probablement des Walkman, c'était pas encore des MP3. Merci beaucoup, en tout cas, à Johanna Siméon qui était avec nous à l'instant par téléphone, et à vous, Jean-Christophe Ruffin. Et je conseille aux éditeurs vivement ce livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire, ce roman, Checkpoint, qui est paru aux éditions Gallimard. Un grand merci d'être passé aujourd'hui dans notre studio.